Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinine, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. En ce mardi 7 novembre 2023, nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'ONU appelle un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le président iranien Ibrahim Raisi se rend au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite discutent de la fin du génocide israélien à Gaza. Et puis en France, l'ancien premier ministre Dominique de Villepin condamne l'attaque d'Israël contre la bande de Gaza. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Seyed Ebrahim Raisi partira mercredi matin 8 novembre pour le Tadjikistan, puis se rendra en Ouzbékistan afin de participer au 16e sommet de l'Organisation de coopération économique, OCE. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, partira pour le Tadjikistan mercredi matin à l'invitation officielle de son homologue tadjik, Emomali Rahmanov. Après la cérémonie officielle d'accueil, les présidents des deux pays se rencontreront puis participeront à la réunion conjointe des activités économiques et des hommes d'affaires irano-tadjiks. Lors de cette visite, les responsables iraniens et tadjiks signeront également plusieurs demandes et documents de coopération conjointe. Après le Tadjikistan, le président Raisi se rendra en Ouzbékistan sur l'invitation officielle de son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, et afin de participer au 16e sommet de l'Organisation de coopération économique. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et saoudiens discutent de la fin du génocide israélien à Gaza. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite ont discuté des derniers développements dans la bande de Gaza lundi lors d'une conversation téléphonique. Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian et son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, ont échangé des points de vue sur la tenue d'un sommet d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique OCI axé sur la question palestinienne. Ils ont souligné l'importance de mettre fin aux crimes de guerre commis par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et de fournir une aide humanitaire constante aux personnes touchées par la guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, dans une lettre adressée dimanche 5 novembre à Zhang Ming, secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai, tout en exprimant la profonde préoccupation et tristesse du gouvernement iranien concernant la poursuite des crimes du régime d'occupation sioniste, a exigé la réaction de l'OCS pour mettre fin aux attaques sur la bande de Gaza assiégée, pour pouvoir mettre fin aux crimes contre l'humanité israélien et pour que le régime agresseur et occupant soit tenu responsable de ses actes. Toujours dans sa lettre, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le soutien des États-Unis et de certains pays occidentaux au régime sioniste constitue la base de la poursuite des crimes de ce régime et des violations flagrantes et systématiques du droit international. Il a également fait référence au long et noir bilan du régime sioniste, dont les crimes internationaux les plus odieux contre les Palestiniens, avant de mettre en garde contre le risque d'un désastre humanitaire majeur dans la bande de Gaza en cas d'inaction de la communauté internationale. Toujours dans cette lettre, le plus haut diplomate iranien a demandé au secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai de condamner les exactions et crimes perpétrés par Israël contre le peuple innocent palestinien sans défense et opprimé, de prendre les mesures nécessaires et urgentes pour empêcher la poursuite des violations flagrantes du droit international et mettre fin aux crimes de guerre et au génocide en Palestine. Les États-Unis préfèrent continuer à être complices des crimes du régime sioniste à Gaza, déplore le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. La Maison-Blanche préfère continuer à être complice des crimes commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza et à soutenir le régime sioniste effondré au prix d'une confrontation avec l'opinion publique internationale, a-t-il dit. Amir Abdollahian a écrit sur X, ex-Twitter, « Des millions de personnes dans différentes villes du monde entier, y compris à Washington, sont descendues dans les rues pour soutenir la Palestine et condamner les crimes commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza. » Notant que plus de 120 pays ont appelé à la fin de l'offensive des forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza, Amir Abdollahian a ajouté « Mais la Maison-Blanche préfère continuer à être complice des crimes commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza et à soutenir le régime sioniste effondré au prix d'une confrontation avec l'opinion publique internationale. » Sachez d'autre part que le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian s'est entretenu au téléphone avec son homologue égyptien Sameh Shoukry lundi soir, discutant des derniers développements en Palestine. Amir Abdollahian a souligné les positions de l'Iran et de l'Égypte en tant que deux pays islamiques importants, affirmant que la poursuite des négociations bilatérales est cruciale pour mettre fin à la crise actuelle en Palestine et aux frappes sauvages du régime israélien contre les civils à Gaza et en Cisjordanie. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné que le prochain sommet des pays islamiques à Riyad était important et a déclaré que Téhéran était prêt à poursuivre les consultations avec le Caire. L'attaque d'Israël menée sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier n'est ni ciblée ni proportionnée, juge mardi 7 novembre sur France Info l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Sur le plateau de France Info, Dominique de Villepin fustige la politique israélienne et dénonce la triple guerre menée par Benjamin Netanyahou. Nous sommes essentiellement dans une politique de vengeance. Le légitime défense n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles, insiste l'ancien ministre des Affaires étrangères. Dominique de Villepin déplore des massacres et cite notamment l'ambulance prise pour cible depuis le 7 octobre et le début de la riposte israélienne. Au moins 10 000 Palestiniens ont été tués selon le Hamas. Selon Dominique de Villepin, Israël a atteint l'inverse de ce qu'il souhaite. L'ancien chef du gouvernement affirme que la force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. Cette guerre menée aujourd'hui est l'illusion d'une paix possible. Ça n'arrivera pas, insiste Dominique de Villepin. Israël se met en danger avec ce type de guerre et ce type de frappe, a-t-il réagi ? Arrêtons de poser la question de la responsabilité. La faute, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces massacres, affirme encore Dominique de Villepin. Selon l'ancien Premier ministre français, le régime sioniste porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé le 7 octobre parce qu'il n'a pas pu protéger le peuple israélien. Israël est responsable, selon Dominique de Villepin, parce qu'il a encouragé une politique d'occupation et de colonisation en Cisjordanie. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Dans le cadre d'un rare communiqué conjoint publié dimanche 5 novembre, les directeurs de 18 agences des Nations Unies et des organisations à but non lucratif ONG ont exprimé leur choc et leur horreur face au bilan des civils tués dans l'agression israélienne contre la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l'acheminement d'aide humanitaire urgente. Cela fait 30 jours, trop c'est trop, ont-ils souligné. Les responsables des principales agences des Nations Unies, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour la femme, ONU Femmes, le Programme alimentaire mondial, PAM, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont déclaré que le massacre horrible de civils par Israël était scandaleux dans la mesure où la population de Gaza était privée de nourriture, d'eau, de médicaments, d'électricité et de carburant. Depuis presque un mois, Le Monde observe l'évolution de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, avec stupeur et horreur face au nombre croissant des pertes en vie humaine et de destruction, indique le communiqué, soulignant qu'il est inacceptable que l'ensemble de la population de Gaza soit privée des éléments essentiels à sa survie et soit bombardée chez elle dans les abris, les hôpitaux et les lieux de culte. Le communiqué a également fait part de plus de 100 attaques contre les centres médicaux enregistrés dans la bande de Gaza assiégée. En outre, le communiqué dénonce le meurtre de dizaines de travailleurs humanitaires, indiquant « de très nombreux travailleurs humanitaires ont été tués depuis le 7 octobre, dont 88 collègues de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, le plus grand nombre de victimes des Nations Unies jamais enregistrées dans un seul conflit ». À noter que le régime d'occupation israélien a mené cette guerre brutale contre la bande de Gaza après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé son opération sans précédent, tempête d'Al-Aqsa, contre l'entité sioniste, en réponse à la campagne d'effusion de sang et de dévastation menée par le régime israélien depuis des décennies contre les Palestiniens. Tel Aviv a également bloqué l'approvisionnement en eau, en nourriture et en électricité de Gaza, plongeant la bande côtière dans une crise humanitaire jamais vue. Conformément aux données du ministère de la Santé à Gaza, depuis le début de l'agression israélienne, au moins 10 002 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 70% des femmes et des enfants.
Bonjour à tous. Notre débat du jour considère la loi donc que veut mettre en place la France concernant associer l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est notre sujet du débat. Je vous propose tout d'abord, comme le veut notre format débat, tout d'abord un reportage qui fera le point sur la situation, sur ce projet de loi, éventuellement également les réactions. Tout de suite donc le reportage et par la suite la venue de nos invités. A tout de suite.
Un groupe de 16 sénateurs français a présenté un projet de loi visant à criminaliser la critique du sionisme. 16 sénateurs français, affiliés pour la plupart au groupe politique Les Républicains, ont déposé sous l'égide de Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, une proposition de loi visant à pénaliser l'antisionisme. La proposition de loi qui a été soumise au Sénat pour une première lecture prévoit notamment de punir d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui auront contesté l'existence de l'État d'Israël, de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'injure commise envers l'État d'Israël, puis 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende contre ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué la haine ou la violence à l'égard de l'État d'Israël. Mais ce n'est ni la première ni la seule proposition du sénateur Le Rudulier. Ce sénateur demande également la dissolution du mouvement France Insoumise ainsi que celle des partis ayant fait l'apologie du Hamas. Dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, le sénateur des Bouches-du-Rhône dénonce l'existence d'une 5e colonne du terrorisme palestinien en France et réclame la dissolution non seulement de la France insoumise, mais aussi du nouveau parti anticapitaliste NPA, de la Jeune Garde, des indigènes de la République et des révolutions permanentes, tous accusés de faire l'apologie du terrorisme. Mais il est intéressant à savoir que les juifs anti-sionistes dénonce ce projet qui amalgame antisionisme et antisémitisme. Le président d'honneur de l'Union juive française pour la paix, UGFP, Richard Wagman, avait dénoncé un amalgame volontaire entre antisémitisme et antisionisme en France. Wagman rappelait que l'antisémitisme est une forme de discrimination raciale et de haine, tandis que le sionisme et l'antisionisme sont des idées politiques. Ce groupuscule ne représente en rien la moindre portion de la communauté juive de France, a-t-il souligné. Le mois dernier, la France a interdit les manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a ajouté que toute organisation de telles manifestations entraînerait des arrestations. La France est depuis longtemps derrière le projet colonial d'Israël en Palestine, fournissant des armes et une couverture diplomatique à sa campagne de bombardement génocidaire en cours à Gaza.
Alors nous revoilà donc sur le plateau. D'abord, on va faire venir nos invités que vous connaissez peut-être si vous nous avez déjà suivis. Alors il y a Monsieur Jean-Maxime Corneille, analyste politique. Bonjour Monsieur Corneille, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour Téhéran, merci pour votre invitation.
Et également, nous avons Bernard Cornu, également, et souvent également sur les situations de manifestation pour la Palestine, pour les droits d'expression. Monsieur Cornu, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Oui, bonjour.
Alors, on va commencer dans ce cas-là avec Monsieur Corneille. Alors, Monsieur Corneille, plusieurs fois sur les plateaux, vous avez indiqué qu'il y a un jeu qui se fait par le biais du sionisme, qui s'en prend à la France, les intérêts français. En Afrique, souvent, vous en avez parlé, du fait que finalement, il y a un jeu qui fait que la France perd du terrain en Afrique, mais ça serait dû donc à l'influence négative de l'entité sioniste sur ses politiques. Nous savons, parce qu'il y a eu énormément d'informations qui ont circulé ces derniers temps à cause de Gaza, que pratiquement une soixantaine de parlementaires français sont et français et israéliens. Donc on peut comprendre qu'il y a une véritable influence dans la loi par, on va dire, l'influence sioniste dans le Parlement français, là où sont donc prononcées les lois, en tout cas décidées, écrites en première instance, dans tous les cas de figure. Alors on est loin de 1905, on oublie souvent, quand on fait un parallèle de sionisme et juif avec l'islamophobie, l'islam, le hijab, la tenue religieuse, donc la barbe et la robe longue pour les hommes, mais on oublie aussi les chrétiens qui ont toujours eu l'obligation de se montrer discrets dans leur tenue, dans les symboles de leur religion. Et pourtant on a vu dans ce Parlement français, la kippa, on a vu maintenant, aujourd'hui, cette loi, cette envie de faire une loi qui mixe l'antisionisme à l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien, le sujet est vaste et il convient de le simplifier de la bonne façon. C'est-à-dire que tout ça, c'est le résultat d'une longue opération. En réalité, il y a un feuilletage de schizophrénie au sein de l'histoire de France qui empêche aujourd'hui même les Français de comprendre à quel point ils subissent un terrorisme intellectuel depuis la Révolution globalement. L'élément à avoir en arrière-plan, j'en ai déjà parlé sur votre antenne, c'est globalement à partir du XVIe siècle, l'union entre l'Empire britannique d'une part et les réseaux juifs internationalistes commerciaux d'autre part, provenant notamment de la péninsule ibérique après leur expulsion par Isabelle la Catholique en 1492. À partir de là, l'origine de la surpuissance de l'Empire britannique, puis plus tard de ce que j'appelle aujourd'hui, de ce qui est devenu aujourd'hui le mondialisme anglo-américano-israélien, la logique qui a été derrière, c'est globalement un oubli de ce crime spirituel du judaïsme qui a choisi la matière, de ce clergé juif qui a choisi un certain matérialisme par opposition à son rôle théorique en tant que clergé, c'est-à-dire le salut des âmes. Les prophètes de l'Antiquité, comme plus tard Jésus, comme plus tard Mohammed, faisaient tous le même procès, c'est-à-dire de dignitaires juifs qui confondaient les temples et les banques et qui, par extension, bien longtemps après, ont donné une masse critique au capitalisme internationaliste, et c'est tout à fait avoué par des grands monsieur du judaïsme ou des grands historiens juifs, que ce soit Heinrich Gretz, que ce soit Jacques Attali, que ce soit Cecil Rhodes sur les Maranes, l'histoire des Maranes. Donc vous avez une cohérence historique qui fait que tous les opérateurs indépendants, notamment l'Afrique, la France en Afrique, comme nous en parlions, ont vocation à être ciblés. Ça, c'est le but, la monopolisation globalement de tout ce qui est matière première stratégique. Par extension, pour empêcher toute critique à cette logique, il y a un terrorisme intellectuel qui s'est déployé au fur et à mesure, et dont Israël n'est même pas forcément l'acteur. Israël serait bien plus la victime potentielle d'un véritable pouvoir juif sur l'Occident, mais qui existe au moins en tant que facteur et en tant que vecteur, c'est absolument indubitable, mais d'une façon qui pousse Israël à se faire détester, pas dans les intérêts d'Israël, et que les serviteurs israéliens, les serviteurs de l'État israélien comprennent, mais tout en comprenant bien que les éléments perturbateurs qui poussent Israël à se faire détester ou à des choix aventuristes, ou bien à pousser l'Occident à soutenir un aventurisme ou un militarisme excessif en Israël qui est indéfendable d'un point de vue de l'humanisme occidental revendiqué, ne sont pas forcément en Israël. Ce sont souvent des membres beaucoup plus subversifs de la communauté juive occidentale, notamment aux États-Unis et notamment en France, qui sont d'ailleurs souvent d'anciens juifs russes ou polonais, mais qui se caractérisent par une sorte de fanatisme diffus et discret, mais qui est dangereux pour Israël et qui n'est même pas rationnel. Donc en fait, c'est une schizophrénie dans l'histoire de France qu'il s'agit de comprendre, notamment depuis la Révolution. Et il y en a des exemples qui seraient très peu connus en réalité, sur lesquels je ne vais pas les développer là tout de suite. Mais de fait, nous voyons ici l'aboutissement d'une opération psychologique visant à interdire toute critique, évidemment, tant de la communauté juive en France que d'Israël. Mais ce n'est même pas vraiment dans les intérêts israéliens, parce que ce faisant, nous encourageons Israël à prendre des risques pour sa survie à long terme. C'est-à-dire que la diplomatie intelligente française consisterait justement à une politique non pas tant arabisante, mais plus équilibrée au sujet du Moyen-Orient, de façon à ne pas quelque part encourager Israël à une fuite en avant militariste, telle qu'elle a été globalement encouragée notamment depuis la guerre du Liban. C'était d'ailleurs le but de De Gaulle à partir de 1967, de ne pas encourager Israël à cet aventurisme, parce qu'à terme, la situation serait intenable pour Israël par rapport à ses voisins. Mais je dis que les représentants d'une certaine partie de la communauté juive, caractérisée par un fanatisme diffus, sont bien au chaud en France ou aux États-Unis et poussent Israël à se faire détester en interdisant sa critique humaniste raisonnée depuis la France. Et ce n'est pas sain.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Parlement pourrait en arriver là? Est-ce que c'est seulement, finalement, 16 sénateurs? Ce n'est pas la majorité, on n'en est pas là. On sait aussi que, du fait des différentes manifestations, on a bien vu la voix française s'élever et aller contre l'interdiction des manifestations pour antisémitisme. Les manifestations futures ont bien montré qu'il n'y a pas d'antisémitisme, que c'était bien en manifestation pour le soutien de la population à Gaza. Donc ça a donné tort au gouvernement français actuel. Monsieur Corneille, après nous passerons à notre deuxième invité pour finir votre lancée dans votre réflexion. Est-ce que vous pensez que le Parlement actuel pourrait en arriver à prendre cette décision de dire on fait une confusion entre antisémitisme et antisionisme?
Je dis que nous pouvons arriver à une situation à l'américaine dans laquelle, on l'avait vu avec le sénateur Chuck Schumer, qui avait développé une savante subversion sous-étudiée face à Trump durant les années de la présidence Trump. Nous voyons avec des gens comme Meir Habib, qui sont réellement de réels commissaires politiques régnant sur le Parlement et les médias français, nous pouvons tout à fait avoir une situation à l'américaine dans laquelle, en effet, nous arriverons à cette équivalence ubuesque et quelque part à faire passer cette voie. Néanmoins, ce sera quand même une bonne chose pour voir toutes les contradictions de la République dite française depuis plus de 200 ans. Et donc je dis que cette situation peut arriver. Je dis aussi qu'il y a quelque chose qui, je pense, depuis l'Iran est sous-évalué. C'est la facilité qu'ont les Français à endosser, je l'ai déjà dit sur votre antenne, la rhétorique israélienne, parce que depuis des années, l'opinion publique française a été préparée psychologiquement, notamment par l'immigration et par l'encouragement de certaines exactions anti-françaises d'une certaine immigration, mais dont on ne dit jamais qu'elle a été façonnée à 90% par des agents d'influence, sinon juifs, du moins pro-israéliens, du moins entre les deux, ou crypto-pro-israéliens, ce qui fait que les Français partent avec un temps de retard en tant qu'opinion publique pour comprendre vraiment le problème. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas impossible que cette loi finisse par passer. Mais les débats que ça va susciter, en tout cas, montreront bien des contradictions qui seront de toute façon utiles d'un point de vue de l'établissement de la vérité aujourd'hui, je pense.
Merci, M. Cornet. Alors, M. Cornu, ravi de vous revoir. Ravi de vous avoir également en caméra. Alors, M. Cornu, ça fait longtemps que vous manifestez pour la cause palestinienne. On sait que la France a toujours soutenu, en tout cas avant ce gouvernement, a toujours soutenu la cause palestinienne. C'est peut-être le premier gouvernement à en arriver là, c'est-à-dire à interdire de manifester, à interdire de s'exprimer pour la cause palestinienne, à interdire de condamner les actes criminels de l'entité sioniste. Au vu de cette loi, qu'est-ce que vous en pensez après toutes ces années pour vous de manifestations et dans votre position concernant la Palestine ?
Au vu de cette proposition de loi, hein, parce que même je doute qu'elle puisse passer, notamment à l'Assemblée, peut-être au Sénat, où la droite est assez majoritaire, mais à l'Assemblée, je ne pense pas qu'elle puisse rallier, tellement elle est excessive. Et d'ailleurs, moi-même, je devrais faire attention, puisque dans les manifestations, j'ai souvent porté des pancartes où il était dit, comme en Angleterre d'ailleurs, Israël, État terroriste, devra payer des réparations pour toutes les exactions, pour tous les criminels et destructions de maisons. Donc, et en Angleterre, où j'étais dans la manifestation du samedi 14 octobre, il y avait une pancarte très claire où il y avait marqué 75 ans, Israël, État terroriste. Et en Turquie, il y a quelques années, en 2006 notamment, j'étais d'ailleurs à Istanbul, au moment d'une attaque très forte, très violente de l'État d'Israël sur le Liban, avec beaucoup de destruction de ponts, de routes, etc., et aussi beaucoup de morts. Un journal turc a publié en première page « Israël terroriste Devlet », c'est-à-dire « Israël est un État terroriste ». Je ne pense pas que cette loi passera parce que cette proposition de loi passera parce que elle est très excessive. Et en France, il y a quand même une liberté d'expression. C'est vrai que l'antisémitisme est interdit, mais pas l'antisionisme jusqu'à présent, et que les cours européennes ont toujours décidé ou confirmé que tant qu'on pouvait critiquer le sionisme et on pouvait critiquer l'État d'Israël, tant qu'on faisait des motivations pour cela politiques. Et donc nos motivations pour critiquer l'État israélien sont politiques. C'est à cause de son occupation depuis 1967 de territoire palestinien, et plus aussi si on veut contester même ce qui s'est passé en 1948. Pour l'instant, moi j'en reste à le désir des Palestiniens de retrouver, la plupart des Palestiniens, puisqu'ils ont décidé ainsi devant la Ligue arabe, de revenir sur les frontières de 67, ce qu'on appelle en gros la ligne verte, et aussi avec en plus une bande de terrain continue entre Gaza et la Cisjordanie, comme l'a souhaité l'Union européenne même, enfin la communauté européenne, dans une déclaration ancienne, pour que cet État soit viable. Donc je voudrais revenir un peu au court terme. Mon collègue M. Corneille a évoqué, disons, des motivations globales, une historicité de cette problématique. Je voudrais revenir un peu au court terme. J'ai constaté qu'un des proposants au Sénat de cette proposition de loi, à côté de M. Le Rudilier, qui est un homme qui est très ambitieux, qui essaye partout de se faire connaître comme doctorant, alors qu'on sait que sa thèse a été résultée en partie d'un plagiat. Mais l'autre personne très importante, c'est M. Roger Karoutchi, qui est un sénateur, lui, qui a été sénateur depuis longtemps, qui a un rôle important, qui parle souvent dans les médias. Il est lui-même agrégé d'histoire, donc c'est un homme sérieux. Mais il est d'origine d'une famille juive d'Essaouira, où il y a aussi eu un maire d'Essaouira qui était juif, qui a eu beaucoup d'influence, et dont la fille d'ailleurs est la directrice générale de l'UNESCO actuellement. Donc ce sont des gens qui connaissent bien le monde arabe, parce qu'ils y sont nés, qui sont juifs et qui sont tentés quand même de promouvoir un soutien inconditionnel de l'État israélien, et donc sont à l'initiative de telles propositions de loi ou de règlement pour essayer d'empêcher toute critique raisonnable, politique de l'État israélien et de toutes ses exactions. Donc je pense qu'à court terme, ça va être monsieur... Parce que d'ailleurs, M. Karoutchi, sénateur, avait interpellé notre première ministre, Mme Borne, au sujet des déclarations de Mme Colonna ou de Mme Borne, parce qu'il trouvait qu'elle n'était pas assez, ne condamnait pas assez fort comme un génocide l'attaque du 7 octobre. Donc, entre M. Karoutchi et M. Roudili, ils sont dans le même. Il y a d'autres personnes aussi qui sont associées et présentes à cette proposition de loi, mais je pense que l'initiative réelle en vient de M. Karoutchi, car il est habitué à ces critiques très fortes des positions anti-sionistes, anti-israéliennes, qui sont en France très courantes dans les partis de gauche et depuis longtemps.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Cornet, alors, on voit bien que malgré les interdictions de manifestation, les Français ont insisté, ils ont gagné gain de cause, puisque des autorisations de manifestation ont finalement été données. Et aux grandes dames, j'ai envie de dire certainement, de ce gouvernement, ça s'est relativement bien passé. Il y a eu très peu d'accrochages. Pourtant, des gens se sont fait arrêter, ont eu des amendes très importantes parfois. Alors, on voit bien une différence entre l'expression du gouvernement et l'expression finalement du peuple. On l'avait déjà ressenti avec les gilets jaunes, on l'avait ressenti avec toutes ces manifestations, on l'a ressenti au niveau aussi des élections, puisque la voix participative du peuple dans les élections, les différentes élections françaises qui sont censées être des suffrages qui représentent la démocratie en France, elle est de plus en plus faible chaque année, enfin chaque fois qu'il y a de nouveaux mandats. Alors, et qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement continue à prendre des décisions que la France n'est pas d'accord, c'est-à-dire que le peuple français s'est déjà exprimé sur ces points-là, puisque par les manifestations, par des articles dans les journaux, parce que certains journalistes indépendants se sont déjà exprimés sur le conflit en Libye, le conflit en Irak, en Syrie, l'influence européenne dans ces conflits et le fait que finalement les premiers à en subir les conséquences sont les musulmans, qui vivent en Europe ou qui vivent au Moyen-Orient. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette différence ne va pas encore plus se faire? On ne va pas revenir à une envie de révolution en France, à force de tirer le peuple vers une direction qui ne se voit pas avec ce gouvernement?
Alors attention au maniement de ce genre de mots en France, car la situation n'est pas du tout celle-là. La réalité, en effet, c'est que nous avons eu une manifestation qui s'est bien passée, sauf que d'un point de vue extérieur et d'un point de vue français, dans cette manifestation, vous aviez en effet des Blancs, mais vous aviez une grande majorité d'immigrés. En tout cas, sur les images qui ont été montrées aux médias. À Berlin, vous avez eu un cas beaucoup plus caricatural. Vous avez eu une macro-manifestation dont on a clairement vu qu'elle était animée par énormément de musulmans et de Turcs. Ça fait des années que, globalement, c'est très ironique, parce qu'en réalité, Israël, j'avais déjà dit sur votre antenne avec les mots de Martin Schulz qui disait que l'Allemagne aujourd'hui n'avait qu'une seule raison d'exister, c'est d'assurer la sécurité et le bien-être d'Israël, point barre. Ça, c'est un propos violemment anti-européen, absolument fanatique, anti-allemand. Et des propos comme ça, globalement, c'est la façon de penser d'un certain nombre de juifs fanatiques qui sont bien plus les moteurs idéologiques de la communauté juive que le juif du quotidien. Les juifs du quotidien ne sont pas aussi activistes et ne sont bien souvent pas aussi fanatiques. Sauf que c'est en leur nom que beaucoup de choses sont dites de cette nature. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples dans mon environnement ou autre de juifs lucides contre ce genre de choses. Et pourtant, Israël, globalement, depuis 2000-2500 ans, est emmené par ces éléments les plus fanatiques. C'est quelque chose dont, si Israël continue, nous allons voir la fin de notre vivant. Parce que ce système-là ne tient que par la répétition des mêmes mensonges qu'à notre époque nous pouvons faire voler en éclats.
Excusez-moi, monsieur Cornet, excusez-moi, je veux rajouter quelque chose. Alors, il est vrai, ce que vous dites, c'est que si on regarde les médias, si on voit l'expression des médias, comment les gens s'expriment, il y a, du fait de la manipulation dont vous avez souvent parlé ici à Presse TV par rapport à la vérité des choses qui ont été faites ou qui sont faites ou qui sont exprimées, il y a une modification de la vérité. Donc c'est ce que les Français finalement entendent. Mais du fait des différents incidents qu'on connaît en France, j'ai envie de parler du corona, j'ai envie de parler du vaccin, j'ai envie de parler également de la vie de plus en plus chère, ou même des hommes comme M. Leclerc a indiqué qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il y a une inflation des produits en France. Donc les Français se sont fait alerter par des gens qui ont qui ont été les alerteurs de la situation. Et donc il y a de plus en plus, surtout ces deux dernières années, du fait de cette période corona et de cette politique de la vaccination obligatoire, où des Français sont partis, on parle pas seulement de la France, on parle de la Belgique, de la Suisse, des pays francophones, on les a vus aller dans d'autres médias, j'ai envie de penser à Telegram, j'ai envie de penser à Twitter, où ils se sont détachés des médias français. Donc, bien que je comprenne ce que vous dites par rapport aux manifestations pro-Gaza qui ont eu lieu, c'est pas forcément seulement la situation gazaoui qu'on a envie de parler. C'est de la différence entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, des décisions 49.3, des décisions également islamophobes, parce que finalement, à chaque fois, on casse du sucre sur des Français, parce qu'ils sont Français parfois sur deux ou trois générations, puisque ce sont leurs arrière-grands-parents parfois qui ont immigré, et du fait qu'il y a eu une politique que vous avez vous-même exprimée ici sur les plateaux, du fait que la France avait une politique avec l'Afrique, une politique d'association, mais que maintenant il y a cette fissure qui se fait, que cette politique d'association veut être oubliée pour finalement faire une politique de rejet. Mais ces Français-là sont toujours là.
Bien sûr, alors deux choses différentes. En fait, la communauté juive française, sous impulsion israélienne et en fait sous impulsion anglo-américaine, est en train d'user jusqu'à la corde son dernier bastion qui permettait de soumettre les Français, à savoir l'argument, le procès en antisémitisme. Et nous avions vu des opérations durant les Gilets jaunes grossières d'agitation propagandaire, notamment impliquant Alain Finkielkraut, qui tout d'un coup se retrouvait, on ne savait pas pourquoi, il avait fait le coup pour Nuit debout, puis il a refait le coup pour les Gilets jaunes, il se retrouvait là, on ne savait pas pourquoi, et on avait des propagandistes pseudo-musulmans ridicules qui disaient « Ouais, t'es un haineux, t'es un sale sioniste, etc. » Ça, ce sont des opérations d'agitation propagandaire pour bien faire comprendre aux Français que parmi les Gilets jaunes, il y a des méchants pseudo-musulmans apprentis djihadistes, et pareil du côté des Palestiniens. Sauf que, en effet, on avait vu une sécession du peuple par rapport à des élites illégitimes, des élites parasites, notamment juives en France. Depuis la Révolution, il y a vraiment ce qu'on appelait à l'époque le problème juif, en réalité. C'est un facteur lourd dans la République française.
Monsieur Cornet, je vais vous demander de conclure en quelques mots. Malheureusement, le débat se finit.
Oui, tout à fait. Termine juste ce point-là. Les juifs sont en train d'user jusqu'à la corde leur dernier bastion de pouvoir en France, en effet, et ils le font très maladroitement.
Merci, Monsieur Cornet. Monsieur Cornet, je vous remercie également pour votre expertise d'aujourd'hui. Donc, je répète, c'était concernant donc cette envie de légiférer une loi qui mixe l'antisémitisme et l'anti-sionisme. Monsieur Cornet, de nouveau, merci également pour votre participation. C'est la fin de notre débat. Je vous dis, moi, à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous avons l'intention de vous présenter deux figures de proue scientifiques iraniens dans l'émission hebdomadaire Histoire de la science en Iran. Merci de nous suivre pendant le programme. Ali Akbar Jalali est l'un des scientifiques éminents en Iran. Il est actuellement professeur à la faculté de génie électrique de l'université iranienne Elmosanaat, sciences et technologies en français. Il est retourné en Iran en 1994 après avoir obtenu son doctorat et son postdoctorat dans des universités américaines. Et maintenant, il travaille dans les milieux universitaires. Ali Akbar Jalali est né en 1954 dans un village attaché à la ville de Damran, dans la province iranienne de Semnan. Son père travaillait pour les chemins de fer. Ainsi, Ali Akbar a passé ses études primaires dans la ville de Jorjam et ses années d'adolescence dans la ville de Shahrout, dans la province de Semnan. En 1994, il est parti à Téhéran pour poursuivre ses études supérieures. En 1985, il a obtenu son diplôme d'ingénieur spécialisé en électronique à l'université Khwaja Nasiruddin Tusi à Téhéran. Il a obtenu sa maîtrise à l'université d'Oklahoma et ses diplômes de doctorat et de postdoctorat à l'université de Virginie Occidentale aux États-Unis. Ali Akbar Jalali travaille comme membre du corps professoral de la faculté de génie électrique de l'université iranienne El Mossanaat depuis 1994 et il travaille toujours dans la faculté de recherche électronique de cette université. En plus de l'université El Mossanaat, le professeur Ali Akbar Jalali a été accepté comme professeur à temps partiel en 2002 suite au vote de 100% des membres du corps professoral de l'école de technologie de l'Université de Virginie Occidentale. Et depuis, il fait de la recherche et enseigne dans cette université américaine de manière présentielle et virtuelle. En 1994, le professeur Jalali est devenu directeur exécutif de nombreux documents stratégiques du pays, notamment le document stratégique de la technologie de l'information et de la communication rurale du pays. Dans ce sens, il y a 7 ans, le village iranien de Shorku, où il est né, a été connecté au monde via Internet en 2000 grâce aux efforts de Dr Jalali pour être appelé le premier village Internet d'Iran. Depuis 1994, il est membre des associations et instituts scientifiques et culturels nationaux et internationaux. Par exemple, il est membre indépendant de l'UNESCO en éducation et technologie de la région Asie et Pacifique, membre de la mission nationale de l'UNESCO en Iran, membre du comité d'éducation virtuelle du pays, membre du conseil d'administration de l'Association iranienne de la technologie de l'information et de la communication, membre de l'Association iranienne des instruments de contrôle et de précision, membre du conseil de recherche sur l'éducation, membre du comité d'économie du conseil suprême de l'éducation, etc. En 2001, il a été le premier designer du premier cours virtuel en Iran. Dans cette même année, il a été l'initiateur et le designer de la conférence mondiale des villes électroniques Internet. La conférence s'est tenue sur l'île de Kish en 2003 avec la présence de 1500 personnes et devenue un tournant dans le développement de la technologie de l'information et de la communication dans le pays. Cela a marqué l'histoire du développement sérieux de ce phénomène en Iran. En 2004, le professeur Jalali a coopéré efficacement avec le gouvernement dans la conception de services bancaires électroniques, de gouvernement électronique, de commerce électronique et d'éducation électronique. En 2007, il a reçu le prix E-Asia lié à la région Asie-Pacifique pour l'innovation et la créativité liée au projet du premier centre de services de la technologie de l'information et de la communication rurale du pays.
En outre, le docteur Ali Akbar Jalali a été choisi comme lauréat du plus grand prix international de relations publiques en 2009 et il a reçu le titre de père des technologies de l'information et de la communication iranienne par l'Association spécialisée des relations publiques d'Iran. En 2016, il a été élu à la tête de la chaire iranienne sur l'éducation électronique par le secrétaire général de l'UNESCO. Actuellement, il est membre de la faculté de génie électrique et chercheur à l'Institut de recherche en électronique de l'Université El-Mossanat. Il est connu comme le père de la technologie de l'information iranienne en raison des premiers efforts déployés pour développer Internet en Iran, notamment dans les zones rurales. Il est le propriétaire de la théorie de la quatrième vague à l'ère virtuelle et l'un des professeurs célèbres et compétents d'informatique, de technologie de l'information, de réseau et d'Internet au monde. Le deuxième célèbre scientifique iranien que nous vous présenterons aujourd'hui est Siavash Mirshams Shahjahani. Il est né en 1942 à Téhéran et est chercheur et professeur de mathématiques. Il est actuellement professeur retraité de la faculté des sciences mathématiques de l'Université de technologie Sharif. Dès le début de la connexion de l'Iran à Internet, il était responsable de l'enregistrement de domaine persan.ir dont le Centre de recherche en physique théorique a démissionné de ce poste en 2009. Il a déployé de nombreux efforts dans le domaine de développement d'Internet en Iran depuis longtemps. Son domaine d'activité et de recherche en mathématiques est généralement celui des systèmes dynamiques. Siavash Shahjahani est né en 1942 à Téhéran. Au cours des années 1954 à 1960, il a fait ses études à Téhéran. En 1960, il a commencé ses études de premier cycle dans le domaine des mathématiques au Hope College dans l'État de Michigan aux États-Unis. Puis, à partir de 1961, il poursuit ses études dans ce domaine à l'Université de Berkeley. Il a obtenu son baccalauréat en 1964 et la même année a commencé à poursuivre ses études supérieures dans la même université américaine. En 1969, Siavash Shahjahani a obtenu son doctorat sous la direction de Steve Smile après avoir soutenu sa thèse de doctorat intitulée « La théorie globale des équations différentielles ordinaires du second ordre sur les variétés » et depuis lors, il a enseigné à l'Université de Berkeley pendant un an. Plus tard, il a été professeur adjoint à l'Université Northwestern de l'Illinois entre 1960 et 1961, à l'Université du Wisconsin entre 1971 et 1973, et à l'Université de Michigan entre 1973 et 1974. En 1974, après son retour en Iran, il devient membre du corps professoral de l'Université de technologie de Sharif et en 1979, il devient professeur dans cette université. De 1985 à 1988, il a dirigé la faculté des sciences mathématiques de l'Université de technologie de Sharif et de 1989 à 1994, il a dirigé le département de mathématiques du Centre de recherche en physique théorique et en mathématiques, connu aujourd'hui le Centre de recherche en sciences fondamentales. En 1989, il devient directeur adjoint du Centre de recherche en physique théorique et mathématique et a joué un rôle actif dans ce domaine lorsque la première connexion Internet a été établi en Iran dans ce centre.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.